Interview de Primo Levi par Philippe Roth, lu par Benoît Peters.
Par un vendredi de septembre, j'arrivais à Turin pour reprendre la conversation que j'avais commencée avec Primo Levi à Londres, un après-midi du printemps. Je demandais à voir l'usine de peinture où il avait été employé comme ingénieur chimiste et plus tard, jusqu'à la retraite, comme directeur. L'établissement emploie au total 50 personnes, principalement des chimistes qui occupent les laboratoires et des ouvriers qui travaillent au rez-de-chaussée de l'usine. Les ateliers de fabrication, l'emplacement des réservoirs de stockage, le bâtiment des laboratoires, les grands conteneurs du produit fabriqué prêt à être embarqué, l'installation de recyclage des déchets, tout cela s'étend sur une surface de 2 ou 3 hectares, à 11 km de Turin. Le bruit des machines qui sèchent la résine, mélangent le vernis et évacuent les produits viciateurs est très supportable. L'odeur âcre du dépôt, odeur qui, me dit Lévy, parfumait encore ses vêtements 2 ans après sa retraite, n'est en aucun cas écœurante. Quant à la benne contenant les résidus noirs et boueux du traitement anti-pollution, elle n'est pas particulièrement répugnante. On se trouve ici certainement dans une des régions industrielles les plus sales au monde, mais à 100 lieues néanmoins de ces phrases imprégnées de souvenirs qui sont caractéristiques des récits autobiographiques de Lévy. D'un autre côté, quoique loin de la prose, c'est manifestement un endroit qui lui est cher. Sensible autant qu'il m'était possible au bruit, à l'odeur, à la mosaïque des tubes, des bacs, des cuves et des cadrans, je me rappelais Fossone, le monteur-régleur de la clé à molette, disant à Lévy qu'il avait surnommé « mon alter ego », « Je dois vous dire, faire partie d'une entreprise, c'est quelque chose qui me plaît. » Alors que nous marchions dans la cour qui menait au laboratoire, un simple bâtiment à 2 étages construit du temps où Lévy était directeur, il me dit « Je n'ai plus de lien avec l'usine depuis 12 ans. Cela va être une aventure pour moi. » Il me fit remarquer qu'il pensait que la plupart de ceux qui travaillaient avec lui à cette époque étaient maintenant à la retraite ou décédés. Et effectivement, les rares survivants qu'il rencontra ce jour-là lui parurent comme des spectres à figure humaine. « Voilà un autre fantôme », me chuchota-t-il après que quelqu'un fût sorti du bureau qui était le sien autrefois, pour l'accueillir. En nous dirigeant vers les laboratoires, où les matières premières sont examinées minutieusement avant de prendre le chemin de la production, je demandai à Lévy s'il pouvait reconnaître le léger parfum d'essence chimique qui imprégnait le couloir. Je pensais que cela sentait un peu comme dans un couloir d'hôpital. Il leva le nez pour percevoir l'odeur et me répondit en souriant. « Je la comprends. » et peut l'analyser comme un chien. Il me paraissait très animé, comme un petit animal sauvage qui fait preuve de la plus vive intelligence dans son milieu naturel. Lévy était petit et mince, et vif encore, comme il devait l'être à l'âge de 10 ans. Sa vivacité d'esprit était évidente, une énergie intérieure, constamment en éveil. Les écrivains se divisent, tout comme le reste de l'espèce humaine, en 2 catégories. Ceux qui vous écoutent, et ceux qui ne vous écoutent pas. Lévy écoutait d'une oreille attentive, le visage tendu vers l'interlocuteur. Un visage gravé avec précision, garni d'une petite barbe blanche, et qui, à 67 ans, faisait immédiatement penser à Pan, en y ajoutant le côté professoral, un visage d'une curiosité irrésistible et celui de l'estimable Dottore. Je veux bien croire Fossone, et quand il dit à Primo Lévy au début de la clé à molette, « Tu es quelqu'un tout de même. » Me faire dire ces histoires que je n'ai jamais racontées à personne, à part toi. Il n'est pas surprenant que les gens soient toujours en train de lui raconter quelque chose et qu'il enregistre tout fidèlement avant même de l'écrire. Écoutant, il était aussi concentré et silencieux qu'un écureuil épiant quelque chose d'inconnu du haut d'un mur de pierre. Le bel immeuble confortable, construit quelques années avant sa naissance, où Lévy habitait avec sa femme Lucia, il y était né. Hormis l'année qu'il a passée à Auschwitz et les mois d'aventure qui suivirent sa libération, Lévy a vécu dans le même appartement toute sa vie. Le bâtiment, dont la solidité bourgeoise commençait à se ressentir de l'épreuve du temps, donne sur un large boulevard bordé de résidences qui me fit penser au quartier italien de Manhattan, sur la West End Avenue. Un flot imperturbable de voitures qui défilent rapidement, mais aussi des rangées de gros châtaigniers se déployant de chaque côté de l'avenue, et les collines vertes qui longent la ville, visible du carrefour. S'aventurer dans les fameuses galeries du centre commercial de la ville équivaut à une marche de 15 minutes, sans pouvoir revenir en arrière, directement à travers ce que Lévy appelait l'obsédante géométrie de Turin. Depuis leur rencontre et leur mariage, Lucia et lui partageaient leur vaste appartement avec sa mère à lui, 91 ans. Sa belle-mère, âgée de 95 ans, n'habitait pas très loin. Dans l'appartement voisin vivait son fils de 28 ans, physicien, et quelques rues plus loin, sa fille de 38 ans, botaniste. Je ne connais aucun autre écrivain contemporain qui soit volontairement resté pendant tant d'années, intimement lié et si proche de sa famille, de son lieu de naissance, de sa région, du monde de ses aïeux, et particulièrement de l'environnement professionnel local, qui à Turin, la ville de Fiat, est largement industriel. De tous les artistes intellectuellement doués de ce siècle, Lévy, qui était d'ailleurs plus un artiste chimiste qu'un chimiste écrivain, c'est le mieux adapté à l'environnement dans lequel il a vécu. Peut-être le fait d'entretenir des liens si étroits et d'avoir écrit un chef-d'œuvre sur Auschwitz représentait-il pour Lévy la réponse d'un homme profondément civilisé et courageux à ceux qui ont tout fait, justement, pour rompre ces liens et les projeter, lui et son peuple, hors du passé. Dans le système périodique, commençant un paragraphe par une phrase qui décrit l'un des processus chimiques les plus satisfaisants, Lévy écrit « Distiller est une belle chose ». Ce qui suit est également une distillation, une réduction au point essentiel de la discussion variée et animée que nous avons eue en anglais au cours d'un long week-end, la plupart du temps dans le bureau calme de l'appartement des Lévy, une grande pièce très simplement meublée, un vieux sofa à fleurs et une chaise confortable, une machine à traitement de texte recouverte sur la table, les carnets de notes de Lévy, minutieusement classés derrière lui, des livres en italien, en allemand et en anglais rangés sur des étagères tout autour de la pièce. Un des plus petits objets, discrètement accroché, mais certainement le plus évocateur, était un bout de fil barbelé à moitié rongé d'Auschwitz. Des constructions amusantes de fils tordus étaient suspendues plus en évidence sur les murs. Habilement mises en forme par Lévy lui-même, elles étaient faites de fils de cuivre isolés, c'est-à-dire revêtus d'un vernis élaboré dans son propre laboratoire. S'ajoutait à tout cela un gros papillon, un petit insecte, et haut sur le mur, derrière la table, deux des plus grandes constructions. L'une représentait un oiseau guerrier armé d'une aiguille à tricoter, et l'autre, comme je ne pouvais pas deviner, Lévy m'expliqua qu'elle symbolisait un homme jouant avec son nez. « Un juif, aventurai-je ? » « Oui, oui, dit-il en riant, un juif, bien sûr. »
Philippe Roth.
Dans le système périodique, votre livre sur l'atmosphère forte et amère de votre expérience en tant que chimiste, vous parlez de Giulia, votre jeune et jolie collègue de l'usine chimique de Milan en 1942. Giulia explique votre passion du travail par le fait que vers l'âge de 20 ans, vous étiez timide avec les femmes et n'aviez pas de petite amie. Votre vraie passion du travail provient d'ailleurs de plus loin. Le travail semble être votre sujet de prédilection, pas seulement dans La clé à molette, mais aussi dans votre premier livre qui raconte votre internement à Auschwitz.
Primo Lévy.
Je ne pense pas que Giulia se soit trompée en imputant mon ardeur au travail et à ma timidité avec les filles à cette époque. Cette timidité, cette inhibition était réelle, douloureuse et lourde à porter, beaucoup plus importante pour moi que ma dévotion au travail. Le travail à l'usine de Milan que je décris dans le système périodique était une parodie du travail à laquelle je ne croyais pas. On s'attendait déjà à la catastrophe de l'armistice italien du 8 septembre 1943 et il aurait été idiot de l'ignorer en se plongeant dans une activité scientifique dénuée de sens. Je n'ai jamais essayé d'analyser sérieusement cette timidité, mais les lois raciales de Mussolini y ont certainement contribué. D'autres amis juifs en ont souffert, des camarades de classe à rien se moquaient de nous, disant que la circoncision n'était jamais qu'une castration. Et nous, du moins inconsciemment, avions tendance à y croire, aidé en cela par le puritanisme de nos familles. Je pense qu'à cette époque, le travail représentait pour moi une compensation sexuelle, plus qu'une réelle passion. Cependant, je suis parfaitement conscient qu'après ma déportation, mon travail, ou plutôt mes deux activités, la chimie et l'écriture, ont joué et jouent toujours un rôle essentiel dans ma vie. Je suis persuadé que tout individu normal est biologiquement fait pour une activité visant la réussite sociale, que l'oisiveté ou le travail inutile, comme l'Arbeit d'Auschwitz, augmente la souffrance et l'atrophie intellectuelle. Dans mon cas, et dans le cas de mon alter ego Fossone, le travail est un remède au problème. À Auschwitz, j'ai souvent observé un phénomène curieux. Le besoin du lavoro ben fatto, le travail bien fait, était tellement fort que l'on persuadait même les gens de bien faire les basses besognes. le maçon italien qui me sauva la vie, en m'apportant à manger en cachette pendant 6 mois, détestait les Allemands, leur nourriture, leur langue, leur guerre. Mais quand ils le chargèrent de construire des murs, il les fit bien droits et solides, non par soumission, mais par conscience professionnelle.
Philippe Roth.
Si c'est un homme, se termine par un chapitre intitulé « Le récit de 10 jours », dans lequel vous décrivez, sous la forme d'un journal, comment vous avez vécu du 18 au 27 janvier 1945, parmi le reste des patients malades et mourants, dans ce qui tenait lieu d'infirmerie au camp, après que les nazis se sont enfuis vers l'ouest avec quelques 20 000 prisonniers en bonne santé. Ce qui est raconté dans ce chapitre se lit, à mon avis, comme l'histoire de Robinson Crusoé en enfer, avec vous, Primo Levi, dans le rôle de Crusoé, arrachant ce dont vous aviez besoin pour survivre de l'amas chaotique d'une île dévastée et impitoyable. Ce qui m'avait frappé ici, et tout au long du livre, c'était la grande part de réflexion qui contribue à votre survie. La réflexion d'un cerveau scientifique, pragmatique et humain. Votre survie n'était pas de celles qui sont guidées soit par une force instinctive et cruelle, soit par une chance incroyable. Mais elle prenait forme plutôt dans votre détermination professionnelle, celle d'un homme de précision qui vérifie les expériences en cherchant le principe de causalité, confronté au terrible renversement de toutes les valeurs auxquelles il tient. Admettant que vous étiez l'un des éléments d'une machine infernale, mais un élément doté d'un esprit méthodique qui veut toujours comprendre. À Auschwitz, vous vous dites pour résister, « Je pense trop, je suis trop civilisé. » Mais je pense que l'homme civilisé qui pense trop est inséparable du survivant. Le scientifique et le survivant ne font qu'un.
Primo Levi.
Pendant ces 10 jours inoubliables, j'avais effectivement l'impression d'être Robinson Crusoé. Mais avec une différence notable. Crusoé travaillait pour sa propre survie, alors qu'avec mes 2 compagnons français, nous avions besoin de travailler, enfin, pour une cause juste et humaine, pour nos camarades malades. En ce qui concerne la survie, je m'interroge souvent sur ce problème et c'est une question que beaucoup m'ont posée. J'insiste sur le fait qu'il n'y avait pas de règle générale, si ce n'était arriver au camp en bonne santé et connaître l'allemand. En dehors de cela, la chance faisait le reste. J'ai vu survivre des gens astucieux et des gens idiots, des courageux et des poltrons, des penseurs et des fous. Dans mon cas, la chance joua un rôle essentiel, au moins en 2 occasions, en me permettant de rencontrer le maçon italien et en tombant malade 1 fois, mais au bon moment. Cependant, vous avez raison de dire que la réflexion et l'observation étaient pour moi des facteurs de survie, bien qu'à mon avis, la chance pure domina. Je me souviens d'avoir vécu cette année à Auschwitz dans un état exceptionnel d'ardeur. Je ne sais pas si cela venait de ma formation professionnelle, d'une résistance insoupçonnée ou bien d'un instinct profond. Je n'arrêtais jamais d'observer le monde et les gens autour de moi, à tel point que j'en ai encore une vision très précise. J'éprouvais le désir intense de comprendre. J'étais constamment envahi par une curiosité que plus tard quelqu'un qualifia en fait rien moins que de cynique. La curiosité du naturaliste qui se retrouve transplanté dans un environnement qui est effroyable, mais nouveau, effroyablement nouveau.
Philippe Roth.
Dans « Si c'est un homme », la description et l'analyse de vos atroces souvenirs de la gigantesque expérience biologique et sociale des Allemands sont guidés, très précisément, par l'intérêt quantitatif que vous avez pour les différents modes de transformation ou de destruction d'un homme, comme la substance qui, en se décomposant dans une réaction chimique, perd les caractéristiques qui lui sont propres. « Si c'est un homme » se lit comme les mémoires d'un théoricien de la biochimie morale, qui fut lui-même enrôlé de force en tant qu'échantillon organique pour subir les expériences d'un laboratoire des plus sinistres. Cet être humain pris dans le laboratoire du scientifique fou est le type même du scientifique sensé. Dans la Claire Molette, qui aurait pu justement s'appeler « C'est un homme », vous dites à Fossone « Être un chimiste aux yeux de tout le monde et sentir du sang d'écrivain dans mes veines, c'est avoir en conséquence 2 âmes en moi-même. Et c'est trop. »
Primo Levi.
J'ai vécu ma vie de camp aussi rationnellement que possible. Et j'ai écrit « Si c'est un homme » en me battant pour expliquer aux autres, et à moi-même, les événements auxquels j'ai été mêlé, mais sans intention littéraire définie. Mon modèle, ou si vous préférez mon style, se fondait sur les rapports hebdomadaires que l'on fait régulièrement dans les entreprises. Ils doivent être précis, concis et écrits dans un langage compréhensible par tout le monde dans la hiérarchie industrielle. et certainement pas dans un jargon technique. Au fait, je ne suis pas un scientifique, je ne l'ai jamais été. Je voulais en devenir un, mais la guerre et le camp m'en ont empêché. Je dus me contenter d'être technicien tout au long de ma carrière professionnelle. Lorsque je disais « deux âmes, c'est trop », c'était à moitié une blague, mais aussi à moitié une allusion à des choses sérieuses. J'ai travaillé en usine pendant presque 30 ans, et je dois admettre qu'être à la fois chimiste et écrivain n'est pas incompatible. En fait, cela se renforce mutuellement. Mais la vie en usine implique beaucoup d'autres problèmes loin de la chimie. Le recrutement et le renvoi des ouvriers, les disputes avec le patron, les clients, les fournisseurs, la prise en charge des accidents, les coups de téléphone y compris la nuit ou lorsque vous êtes à une réception, la bureaucratie et beaucoup d'autres tâches qui vous annihilent l'esprit. Tout cela est cruellement incompatible avec l'écriture qui nécessite pas mal de tranquillité d'esprit. Par conséquent, je me sentis très soulagé lorsque j'arrivai à l'âge de la retraite et pus démissionner, renonçant ainsi à mon âme numéro 1.
Philippe Roth.
La suite de « Si c'est un homme » s'appelle en italien « La tregua », la trêve. C'est le récit de votre voyage de retour en Italie après Auschwitz. Ce voyage aux multiples détours a une dimension légendaire, en particulier l'histoire de la longue trêve en Russie, l'attente du rapatriement. Ce qui est surprenant dans ce livre, qui aurait pu logiquement témoigner d'un état d'esprit affligé et désespéré, c'est cette jubilation. Votre réconciliation avec la vie s'effectue dans un monde qui, quelquefois, vous faisait penser au chaos originel. Alors, vous y apparaissez tellement stimulé par les gens, si hautement méditatif et cultivé, que je me demande si, malgré la faim, le froid et la peur, malgré le souvenir même, vous n'avez jamais eu de meilleur moment que pendant ces quelques mois que vous baptisez une parenthèse illimitée dans le temps, un don providentiel mais unique du destin.
Primo Levi.
Un de mes amis, un excellent médecin, m'a dit il y a quelques années « Vos souvenirs d'avant et d'après sont en noir et blanc, ceux d'Auschwitz et de votre voyage de retour en technicolor. » Il avait raison. La famille, la maison, l'usine sont de bonnes choses en elles-mêmes, mais elles m'ont privé de quelque chose qui me manque toujours, l'aventure. Le destin décida que je la rencontrerais dans l'horrible confusion d'une Europe dévastée par la guerre. J'ai écrit La Trêve 14 ans après Si c'est un homme. C'est beaucoup plus un livre d'introspection, plus méthodique, plus littéraire, avec un style beaucoup plus élaboré. Il dit la vérité, mais une vérité épurée. Lorsque Si c'est un homme commença à avoir du succès et que j'entrevis un avenir dans l'écriture, j'entrepris d'écrire ses aventures. Je recherchais un côté ludique dans l'écriture, pour amuser mes futurs lecteurs. Par conséquent, j'ai insisté sur les épisodes étranges, exotiques et joyeux, surtout ceux concernant les Russes que j'avais observés de près. Et j'ai relégué à la première et à la dernière page l'état d'esprit affligé et désespéré, comme vous l'appelez. Le livre fut écrit aux alentours de 1961. C'était les années de Khrouchtchev, de Kennedy, du pape Jean XXIII, du premier dégel et des grandes espérances. Pour la première fois en Italie, on pouvait parler de l'URSS en étant objectif, sans se faire traiter de philo-communiste par la droite et de réactionnaire par le puissant parti communiste italien. Il est vrai que j'ai des racines profondes et que j'eus la chance de ne pas les perdre. Ma famille fut presque entièrement épargnée par le massacre nazi. Selon la légende familiale, le bureau sur lequel j'écris aujourd'hui se trouve exactement à l'endroit où je vis le jour. Lorsque je me suis retrouvé, aussi déraciné qu'un homme peut l'être, j'en ai bien sûr souffert, mais cela fut plus tard largement compensé par ma fascination de l'aventure, par mes rencontres, par la douceur de ma convalescence après la peste d'Auschwitz. Dans sa réalité historique, ma trêve russe ne se transforma en don que bien des années plus tard, lorsque la méditation et l'écriture l'eurent purifié de toute douleur.
Philippe Roth.
Vous commencez le système périodique en parlant de vos ancêtres juifs qui émigrèrent d'Espagne au Piémont en passant par la Provence en 1500. Vous qualifiez vos racines familiales dans le Piémont et à Turin de « pas si nombreuses mais profondes, étendues et remarquablement entremêlées ». vous expliquer comment ces Juifs élaborèrent un jargon qu'ils utilisaient à l'origine pour ne pas être compris des « gentils », un jargon composé des mots dérivés de l'hébreu, mais avec des terminaisons piémontaises. Pour un observateur étranger, cet enracinement dans ce monde juif de vos ancêtres n'est pas seulement entremêlé, mais de façon essentielle, identique à votre profond enracinement dans la région elle-même. En 1938, lorsque les lois raciales furent introduites, réduisant la liberté des Juifs italiens, vous commencez à considérer le fait d'être juif comme une impureté, bien que vous disiez dans le système périodique « Je commençais à être fier d'être impur ». Cette contradiction entre votre enracinement et votre impureté me fait penser à ce qu'a récemment écrit le professeur Arnaldo Mobigliano au sujet des Juifs en Italie. Les Juifs faisaient moins partie de la vie italienne qu'ils ne le pensaient. Jusqu'à quel point vous sentez-vous vraiment italien? Êtes-vous toujours une impureté? Un grain de sel ou de moutarde? Ou ce sentiment a-t-il disparu?
Primo Levi.
Je ne vois aucune contradiction dans le fait de se sentir à la fois enraciné et grain de moutarde. Lorsque vous percevez que vous jouez un rôle de catalyseur, de fil conducteur dans votre environnement culturel, que vous en représentez quelque chose ou quelqu'un qui confère un goût et un sens à la vie, vous n'avez pas besoin de lois raciales, d'antisémitisme ou de racisme en général. Cependant, c'est un avantage que d'appartenir à une minorité, pas forcément raciale. En d'autres termes, il peut se révéler utile de n'être pas pur. Si je retournais la question, ne vous sentez-vous pas, vous-même, Philippe Roth, enraciné dans votre pays et en même temps grain de moutarde? Je perçois dans vos livres une forte odeur de moutarde. Je crois que c'est ce que voulait dire Arnaldo Momigliano. Les Juifs italiens, mais on peut en dire autant pour les Juifs de beaucoup d'autres pays, ont largement contribué à la vie culturelle et politique de leur pays, sans pour autant renoncer à leur identité, en fait, en restant fidèles à leur tradition culturelle. Posséder deux cultures, comme c'est le cas pour les Juifs, mais pas seulement pour eux, c'est un signe de richesse, pour les écrivains, comme pour les autres. Bien sûr, je me sens italien. Certains de mes livres font l'objet de discussions dans les écoles. Je reçois beaucoup de lettres, intelligentes, stupides, insensées, critiques, moins fréquemment des lettres contestataires ou polémiques. Je reçois des manuscrits inutiles de pseudo-écrivains. Ce sentiment de distinction a changé de nature. Je ne me sens plus emarginato, ghettoisé ou hors la loi, car en Italie, il n'y a plus d'antisémitisme aujourd'hui. En fait, même les gens perçoivent le judaïsme avec intérêt et la plupart du temps avec sympathie, bien que les sentiments soient partagés vis-à-vis d'Israël. Je suis resté à ma façon une impureté, une anomalie, mais pour des raisons différentes d'autrefois. Pas spécialement en tant que juif, mais en tant que survivant d'Auschwitz et écrivain en marge, n'étant pas issu du monde littéraire ou universitaire, mais du monde industriel.
Philippe Roth.
Votre livre « Maintenant ou jamais » est un récit simple, racontant l'aventure picaresque d'un petit groupe de partisans juifs d'origine russe et polonaise harcelant les Allemands sur le front de l'Est. L'intention qui se cache derrière semble donc moins libre que l'impulsion qui engendre vos récits autobiographiques. En écrivant sur la bravoure des Juifs qui se sont révoltés, n'aviez-vous pas l'impression de faire quelque chose que vous deviez faire, de vous sentir responsable de revendications morales et politiques que l'on ne trouve pas forcément ailleurs, même si le sujet rejoint votre propre condition marquée de juif.
Primo Levi.
Maintenant ou jamais est un livre qui a suivi un chemin imprévu. De nombreuses motivations m'ont poussé à l'écrire. Je vais les exposer par ordre d'importance. J'avais fait une sorte de pari avec moi-même. Après avoir écrit tant de récits autobiographiques, es-tu, oui ou non, un écrivain à part entière? Capable d'élaborer un roman, d'imaginer des personnages, de décrire des paysages que tu n'as jamais vus. Essai. Je voulais m'amuser à écrire une intrigue occidentale dans un paysage singulier en Italie. Je voulais amuser mes lecteurs en leur racontant une histoire en grande partie optimiste, une histoire pleine d'espoir, parfois même joyeuse, bien que se déroulant sur un arrière-plan de destruction. Je voulais m'attaquer à un cliché encore répandu en Italie. Le juif est quelqu'un de doux, instruit, religieux ou profane, pacifique, humilié, et qui a toléré des siècles de persécution sans jamais se rebeller. Je pensais qu'il était de mon devoir de rendre hommage à ces Juifs qui, dans des conditions déplorables, ont trouvé le courage et les moyens de résister. J'avais l'ambition d'être le premier, sinon le seul écrivain italien, à décrire le monde yiddish. J'avais l'intention d'exploiter le succès que j'avais dans mon pays pour imposer à mes lecteurs un livre sur les judéo-allemands, leur civilisation, leur histoire, leur langue, leur système de pensée. Tout ce qui est pratiquement inconnu en Italie. Personnellement, je ne suis pas mécontent de ce livre, en partie parce que je me suis bien amusé en l'imaginant et en l'écrivant. Pour la première fois dans ma vie, j'eus l'impression, l'hallucination presque, que mes personnages étaient vivants autour de moi, derrière moi, me suggérant leurs faits et gestes, leurs dialogues. J'ai été heureux l'année que j'ai passée à l'écrire. Et donc, quel qu'en soit le résultat, ce fut pour moi un livre libérateur.
Philippe Roth.
Revenons à l'usine de peinture. De nos jours, beaucoup d'écrivains ont travaillé comme professeurs, d'autres comme journalistes. Et la plupart des écrivains de plus de 50 ans, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, ont été employés, au moins pour un temps, comme soldats de je ne sais qui. Une liste impressionnante d'écrivains ont à la fois pratiqué la médecine et l'écriture, d'autres ont été prêtres. T.S. Eliot était éditeur, et comme tout le monde sait, Wallace Stevens et Franz Kafka ont travaillé pour d'importantes compagnies d'assurance. À ma connaissance, il n'y a que deux écrivains d'importance qui ont dirigé une usine de peinture, vous à Turin, en Italie, et Sherwood Anderson à Elyria, dans l'Ohio. Anderson dut se sauver de l'usine et de sa famille pour devenir écrivain. Vous semblez être devenu un écrivain en restant et en poursuivant votre carrière.
Primo Levi.
Je suis entré dans l'industrie de la peinture par hasard, mais je n'ai jamais eu grand-chose à voir avec la production même des peintures, vernis et lacs. Notre société s'est, dès le début, spécialisée dans la production de fils émaillés, de revêtements isolants pour les conducteurs électroniques en cuivre. Au sommet de ma carrière, je faisais partie des 30 ou 40 spécialistes au monde en la matière. Les animaux accrochés ici sur le mur sont faits de chutes de fils émaillés. Honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de Sherwood Anderson avant que vous ne l'évoquiez. Non, il ne me serait jamais venu à l'esprit de quitter ma famille et l'usine pour écrire à plein temps, comme il l'a fait. J'aurais craint le saut dans le vide et j'aurais perdu tous mes droits à la retraite. Cependant, je dois ajouter à votre liste d'écrivains ouvriers dans la peinture un troisième nom, Italo Svevo, un juif converti de Trieste, l'auteur de La conscience de Zeno, qui a vécu de 1861 à 1928. Svevo fut pendant longtemps le directeur commercial d'une usine de peinture à Trieste, la Società Veneziani, qui appartenait à son beau-père et qui fut dissoute il y a quelques années. Trieste appartint à l'Autriche jusqu'en 1918, et cette usine était célèbre car elle approvisionnait la marine autrichienne en excellente peinture anti-pollution, empêchant l'incrustation de coquillages pour les quilles des navires de guerre. Trieste devint italienne après 1918, et la peinture fut livrée aux marines italiennes et anglaises. Pour qu'il puisse traiter avec le ministère de la Marine, James Joyce donna des leçons d'anglais à Svevo, car il était professeur à Trieste à cette époque. Ils devinrent amis, et Joyce l'aida à trouver un éditeur pour ses livres. Le nom commercial de la peinture anti-pollution était Moravia, qu'elle porte le même nom de plume que l'éminent italien n'est pas fortuit. L'entrepreneur triestin et l'écrivain romain le tenait du nom de famille d'un parent commun du côté de la mer. Comme je l'ai déjà laissé entendre auparavant, je ne pense pas avoir perdu mon temps en dirigeant une usine. Ma militanza d'usine, mon honorable fonction obligatoire là-bas, m'a permis de rester en contact avec la réalité du monde.